essai critique par Roland Barthes. Roland Barthes, il y a un certain nombre de jeunes gens très intelligents, à l'école normale par exemple, entre autres, qui vous considèrent comme un maître à penser. Vous pourriez m'expliquer pourquoi ?
Je pense que je suis le plus mal placé pour l'expliquer, ce qui voudrait dire que je prends ce mot à mon compte, ce qui n'est pas le cas. Mais je dirais, disons plus simplement, que les recherches que je fais s'inscrivent évidemment dans un ensemble d'autres recherches qui ont, je pense, une certaine nouveauté actuellement et qu'on peut placer en gros sous le vocable de structuralisme, si vous voulez. Ce que cherchent dans des domaines très différents des gens comme Lévi-Strauss en ethnologie ou Lacan en psychanalyse, eh bien, j'essaye aussi, plus modestement, de le chercher en ce qui concerne un certain nombre d'autres langages, comme par exemple, précisément, la littérature.
Oui. Vous travaillez tous, dites-vous, à la lumière de la linguistique. Qu'est-ce que cela veut dire, cela ?
Eh bien, oui, ça a été, si vous voulez, je pense que tout le monde pourra en convenir aujourd'hui, une sorte de grande révolution dans l'histoire récente des sciences humaines, que cette sorte de promotion brusque de la linguistique qui est devenue une sorte de, disons, de science pilote pour d'autres sciences humaines, comme précisément l'ethnologie ou peut-être même la critique littéraire.
Linguistique comme science du langage.
Comme science du langage, j'entends bien entendu d'une façon beaucoup plus précise la linguistique dite précisément structurale, c'est-à-dire celle qui s'est développée depuis une trentaine d'années et qui étudie non pas du tout pourquoi nous parlons ou d'où viennent les mots que nous employons, mais comment et fait ce système particulier qu'est une langue humaine.
C'est-à-dire comment ça marche le français, comment ça marche l'allemand, etc.
Exactement, comment ça fonctionne, si vous voulez. Et le structuraliste, c'est un homme qui s'intéresse au fonctionnement de ces sortes d'objets un peu compliqués que sont, par exemple, des systèmes de signification.
Quelle est votre ambition? Je veux dire, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver? La question est vaste, évidemment.
C'est très vaste, mais peut-être justement que c'est un peu à la mesure d'une vie d'écriture, disons. Et je crois que ce que j'ai toujours voulu et ce que je cherche toujours encore maintenant, c'est à décrire un certain imaginaire collectif de la modernité, d'arriver au fond à faire ce que les encyclopédistes du XVIIIe siècle ont fait pour le savoir en leur temps, c'est-à-dire l'enfermer en quelque sorte dans 10 à 12 volumes. Eh bien, je dirais que seul ou avec d'autres, peu importe, mais j'ai envie que soit construite actuellement cette sorte d'encyclopédie, non plus du savoir, car ce serait beaucoup trop difficile, mais des symboles humains, de l'imagination de la société dans laquelle nous vivons.
C'est-à-dire de tout, du vrai, du faux, etc.
Du vrai, du faux, du rêve, de la distraction, des fantasmes, tout cela étant véhiculé par des objets extrêmement différents, depuis l'affiche publicitaire jusqu'au récit de presse et jusqu'à l'œuvre littéraire.
Mais justement, à ce titre, un fait divers vous intéresse. Pourquoi vous intéresse-t-il ?
Eh bien, un fait divers m'intéresse parce que, précisément, il n'est pas, si vous voulez, à mes yeux, la simple relation d'un fait réel qui a existé, une sorte de relation neutre et objective, mais il est un véritable récit, comme on peut en trouver dans des contes populaires autrefois, c'est-à-dire une certaine façon que le journaliste a, et derrière le journaliste d'ailleurs, très vraisemblablement tout son public, de déformer en quelque sorte le fait, de le décomposer en ses thèmes, en ses constantes, pour reconstituer un objet nouveau et nouvellement agencé qui est le récit.
Mais c'est un conte qui est arrivé, c'est une fable qui est arrivée malgré tout.
Oui, mais je pense que ce qui est arrivé disparaît presque, dirais-je paradoxalement, sous la façon en quelque sorte nouvelle et générale dont on le raconte.
Oui, mais vous paraissez vous intéresser autant à un fait divers qu'à un roman de Robe Grillée. Et vous aimez Robe Grillée.
Oui, je me suis intéressé beaucoup à Robe Grillée, surtout en ses débuts. Et je dirais qu'en effet, pour moi, c'est un peu le même matériau, le fait divers et le roman d'avant-garde. Il s'agit toujours d'un problème d'agencement d'éléments, d'un problème de récit. Comment raconter quelque chose, soit quelque chose qui a existé, soit quelque chose qui n'a pas existé. Au fond, la différence n'est peut-être pas très grande.
Bonjour. Vous venez d'entendre le début de l'émission Lecture pour tous du 25 mars 1964, émission dont je vous ai déjà parlé, où on trouve, où ont défilé toutes les personnalités dont nous parlons, interrogées le plus souvent par Pierre Dumayet, que vous avez vu aujourd'hui. Alors j'ai un petit peu bouleversé l'ordre de ces cours, en raison de ce que Gérard Genette nous a dit la semaine passée. Il a parlé de ses essais critiques de Roland Barthes, publiés au début de 1964, et il nous a raconté le rôle qu'il avait joué dans cette publication, jusqu'à rédiger lui-même le rempli, la quatrième page de couverture, pour les éditions du Seuil. Alors, c'était pas de ça dont je comptais vous parler aujourd'hui, mais comme je ne vous ai pas indiqué de plan, au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je voudrais aborder l'actualité de l'année 1965-1966 du point de vue de Roland Barthes et donc, évidemment, de la querelle qui l'a opposé à Raymond Picard et qui a occupé toute la saison, puisque Raymond Picard a publié Nouvelle critique aux nouvelles impostures à l'automne de 1965, que la réponse de Roland Barthes, Critique et vérité, a été publiée au début de 1966 et que pendant toute l'année, la presse a beaucoup parlé de cela, de cette querelle, de cette controverse. Où en était Barthes en 1965-1966? Eh bien, il était à ce moment-là directeur d'études à l'École pratique des hautes études, la sixième section de l'École pratique des hautes études. D'abord, il avait été, à partir de 1960, chargé de travaux, et puis, en 1962, directeur d'études, dans une direction d'études qui était intitulée « Sociologie des signes, symboles et représentations ». François Hartog nous a parlé l'autre jour de Fernand Braudel faisant le tour des historiens. Cette école des hautes études, à l'époque, c'était le royaume de Braudel. On n'y entrait pas si ce n'était par l'intermédiaire de ce grand historien. Et il y avait donc une équipe de sociologie. C'est en tant que sociologue, c'est en tant qu'auteur des mythologies que Barthes occupait cette position et qu'il travaillait en équipe avec Georges Friedman, sociologue du travail, passé à la sociologie des médias, de la communication de masse, Edgar Morin, qui est un sociologue polyvalent, travaillé dans beaucoup de domaines et qui avait fait... c'est un personnage très important et probablement... il aurait fallu dans ce cours quelque chose qui soit plus directement centré sur Edgar Morin, mais je ne crois pas que j'en sois vraiment capable. Et bien sûr, Violette Morin, qui était très proche de Roland Barthes et qui travaillait sur la sociologie de la communication. Ils avaient fondé ce centre d'études des communications de masse, SECMAS, en 1961, auquel s'étaient joints un certain nombre de personnes qui étaient plus jeunes, proches de Roland Barthes, comme Olivier Burgelin, qui s'occupait de la revue Communication, revue de ce centre d'études de communication de masse, Claude Brémond, qui deviendrait narratologue, Christian Metz, qui ferait de la sémiologie du cinéma, et Tsvetan Todorov, ou Gérard Genette. Le créneau de Roland Barthes dans ces années-là, c'est donc les mythologies, publiées en 1957, et à ce moment-là, il prépare le système de la mode. Autrement dit, les recherches littéraires sont un petit peu marginalisées dans ce travail de sociologie et de ce qui va s'appeler sémiologie, mais non pas encore, comme lorsqu'il viendra ici, sémiologie littéraire. Et son séminaire dans ces années-là, 1962-1964, pendant ces deux premières années, porte sur la sémiologie, mais précisément la sémiologie, je dirais, non littéraire, la sémiologie des systèmes sémiotiques non linguistiques, des images, des sons, des gestes. Et pendant ces premières années, c'est là qu'il rédige les éléments de sémiologie qui seront publiées un peu plus tard. Après ces mythologies, il y a une pause dans les publications de Barthes jusqu'à ce moment qui produira la crise. Et puis, une sorte de tir groupé est en cours avec sur Racine, qui est publié en février 1963 dans la vieille collection du Seuil, Pierre Vive, une collection historique dans laquelle il y a déjà beaucoup d'essais littéraires. Et puis, un an plus tard, en février 1964, les essais critiques, qui, eux, sont publiés dans la collection de Philippe Solers, telle qu'elle, comme Gérard Genette nous l'a rappelé la semaine passée. Et en vérité, c'est le premier titre dans la collection de telle qu'elle qui sort du noyau de l'équipe, puisque jusque-là, c'est le cinquième titre, et les quatre premiers sont des textes de Denis Roche, de Philippe Solers, de Marcelin Plainé, et de Baudry, Jean-Louis Baudry. Donc, c'est vraiment des textes de l'équipe même. Et Genette nous a rappelé la semaine passée comment il avait servi d'intermédiaire entre Solers et Barthes pour cette publication. C'est donc un recueil d'articles publié depuis 1954. Et en même temps, et peu après, troisième titre, eh bien, le degré zéro de l'écriture, qui ressort en collection de poche. J'ai parlé dans l'un de mes premiers cours de ce moment où le livre de poche devient ambitieusement plus intellectuel, et un livre de poche de culture supérieure, et le degré zéro de l'écriture est publié chez Gontier, suivi, donc ce premier titre, suivi des éléments de sémiologie, qui est le texte le plus récent de Barthes, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et cette actualité des publications installe Barthes comme une sorte de chef de file, mais pourrait-on dire moins de la critique littéraire à ce moment-là que de la sociologie de la communication, s'il devient visible comme une figure publique, c'est notamment à travers un certain nombre de périodiques, de presse qui reprennent le modèle de ses analyses, le regard qu'il pose sur la société, dans les mythologies, sur les objets, sur ce que dans cette émission de Lecture pour tous, mais je crois que vous n'avez pas vu ces mots, sur ce qu'il appelle la description d'un certain imaginaire collectif. C'est une expression qu'il emploie assez souvent, l'imaginaire collectif. Et il décrit sa méthode comme l'analyse des formes de l'imaginaire collectif que l'on trouve dans le monde moderne. Et cette méthode, elle se répand dans la presse, dans les médias, et notamment dans ce nouveau périodique qui apparaît à ce moment-là, et qui est le Nouvel Observateur, dont on a dit, mais on verra dans un moment si c'est exact, qu'il a beaucoup contribué à cette polémique de l'année 1965-1966. Dans les pages du Nouvel Observateur, dans les pages Société du Nouvel Observateur, on trouve des articles de Jean-Francis Elde qui, d'une certaine façon, applique la méthode de Barthes, celle des mythologies, dans toute une série d'articles sur les voitures. C'est la rubrique qu'il tient. Par exemple, dans un article intitulé « L'homme à la déesse », qui très évidemment rappelle la mythologie de Barthes de quelques années antérieures. Autre article de Jean-Francis Elde, je crois que je l'ai cité il y a quelques séances, c'est un article sur le club méditerranéen qui montre bien l'inflexion que prend ce type d'analyse, à la fois critique et en même temps séduite par ces objets de la consommation contemporaine. Jean-Francis L. écrit « Vous n'échapperez pas plus au club méditerranéen qu'à la télévision, à la Renault 8 et à l'électroménager. Je reviens du club avec l'envie de le démolir et le juste devoir de saluer ses réussites, ses audaces, ses expériences futuristes. » Ce rapport de Audi est amo de ce qui est la consommation contemporaine. Le club, poursuit-il, il faut tirer dessus à boulet rouge, il faut le vitrioler, mais pas haineusement, avec amour, comme un révolutionnaire passionné secoue sa nation. La rétractation précieuse des petits bourgeois affranchis ne suffit pas. Mettre le club en question, en dire du mal, parfait, mais comme Jean-François Revel dans « Pour l'Italie ». Il est intéressant de retrouver Jean-François Revel, que j'ai cité la semaine passée, à propos de l'autre article paradoxal sur la biographie de Proust par Painter. Les deux articles qui sauvent Painter dans une presse qui est assez sévère, ce sont les articles de Jean-François Revel et celui de Roland Barthes. Peut-être là aussi, j'ai manqué quelque chose, il aurait fallu s'intéresser de plus près à cette symétrie possible. Après tout, ce qui les rapproche aussi, ils ont été l'un et l'autre les plus sévères critiques du style du général de Gaulle lors de la publication du troisième de ses volumes, de ses mémoires en 1958. Les deux articles les plus fameux dans la sévérité pour le général de Gaulle et ses qualités littéraires, ce sont ceux de Jean-François Revel et de Roland Barthes. Barthes devient donc un homme médiatique dans ce moment-là. J'ai évoqué déjà ici Pierre Oulfou, sorti à l'automne de 1965, et l'analyse des mythes contemporains, qui elle aussi rappelle la manière de Barthes. Dans son article sur Pierre Oulfou, Aragon insistait sur ces parties entières qui ne sont que collages de publicité, hein, qui détournent la publicité et en même temps, d'une certaine façon, font l'éloge de cette publicité. Et en particulier le début, scène que j'ai peut-être déjà évoquée, où Jean-Paul Belmondo, sortant de son bain, où il lit des livres de poche, dit à sa femme « T'as rien sous ta robe? T'as pas mis ton jupon ?»« Non, » répond-elle, « j'ai mon nouveau scandale qui se voit pas. » Et Belmondo, se saisissant de la publicité qui est sur le lit, lit cette publicité qui nous est montrée « Sous mon nouveau pantalon, scandale, ligne jeune. » Puis il poursuit « Il y avait la civilisation athénienne, il y a eu la Renaissance, et maintenant, on entre dans la civilisation du cul. » Et puis, il y a cette fameuse soirée mondaine chez les Expresso, ses beaux-parents, les beaux-parents de Pierrot, Ferdinand, où toute la conversation est faite à travers des réclames, dans une satire affectueuse. Et puis, on pourrait aussi évoquer, dans cette présence médiatique de Barthes, durant cet automne 1965, la parution d'un livre dont j'ai déjà abondamment parlé, « Les choses » de Pérec, dont les protagonistes, Jérôme et Sylvie, sortent des mythologies. Ce sont les petits bourgeois qui ont fait des études maintenant. Ils avaient, je cite, « ils avaient longtemps été parfaitement anonymes. Ils étaient vêtus comme des étudiants, c'est-à-dire mal. » Et puis, basculement dans la consommation, ils se plongèrent avec ravissement dans la mode anglaise, ils découvrirent les lainages, les chemisiers de soie, les chemises de Doucet, les cravates en voile, les carrés de soie, le tweed, le limbswool, le cachemire, le vicuna, le cuir et le jersey, le lin, la magistrale hiérarchie des chaussures, enfin qui mènent des Church au Weston, des Weston au Bunting et des Bunting au Lobe. J'ai, je crois, aussi cité l'article de François Nourricier qui se moquait un petit peu de cette consommation de petits bourgeois qui, au fond, n'y connaissaient pas grand-chose et qui lui disait qu'au lieu de parler de Old England, il aurait mieux valu parler de Ilditch and Key. Ça aurait mieux fait l'affaire. Mais il y a une surenchère dans ce snobisme consumeriste Et tout cela, en effet, et on peut le dire, inspiré de Barthes. Perec était à l'époque documentaliste au CNRS et il figure parmi les étudiants, les participants au séminaire de Barthes en 1964-1965, lorsque Barthes étudie la rhétorique après avoir étudié la sémiologie. Cette critique de la publicité, de la société de consommation, on a vu cette ambivalence qui est la sienne, elle est faite de séduction et de répulsion. Par exemple, dans quelques-uns de ses articles les plus connus de cette période, comme Rhétorique de l'image, cette analyse d'une réclame pour les pâtes Panzani, qui est justement publiée dans la revue Communication. Voici une publicité Panzani, des paquets de pâtes, une boîte, un sachet, des tomates, des oignons, des poivrons, un champignon, le tout sortant d'un filet à demi ouvert dans des teintes jaunes et vertes sur fond rouge. On l'analyse est devenu canonique sur les rapports entre le texte et l'image, les couleurs et leurs évocations, enfin cette italianité qui est connotée par tous les aspects de cette image. J'ai à plusieurs reprises déjà évoqué le roman de Simone de Beauvoir de la même année, Les belles images, qui se passe aussi dans le milieu de la publicité et où, de manière intéressante, on retrouve à peu près la même analyse d'une publicité marquée par l'italianité. Je vous lis ce petit passage. Alors, a-t-elle lu Barthes ou non ? Il n'y a pas besoin de lire Barthes pour analyser la publicité de la même façon. Lancer une nouvelle marque d'un produit aussi répandu que la sauce tomate, ce n'est pas commode. Et la conceptrice de la publicité, qui est l'héroïne du roman, et celle qui pense l'image, s'entendent pour montrer un contraste de soleil et de fraîcheur, en couleurs vives, un grand soleil au ciel, un village perché, des oliviers, au premier plan, la boîte avec la marque et une tomate, mais il manquait quelque chose, le goût du fruit, sa pulpe. Elles ont discuté longtemps et elles ont conclu qu'il fallait entailler la peau et mettre un peu de chair à nu. Il faut entailler la tomate pour faire sentir l'italianité. Toutes ces analyses critiques de la publicité sont donc récupérées par les agences. Et on sait que Barthes a été, à ce moment-là, en contrat avec Renault pour donner des conseils de publicité. Les numéros de cette revue Communication, et j'insiste sur cela parce que le Barthes qui entre dans cette polémique est un Barthes qui est plus sociologue que littéraire dans ces années. Les numéros de Communication alternent, je ne sais pas si on voit bien la table des matières, mais ça c'est le premier numéro et on voit en effet Georges Friedman, Edgar Morin, Violette Morin, Roland Barthes qui sont donc les acteurs principaux de cette analyse de la communication de masse. Et puis c'est là qu'on a ces éléments de sociologie, de temps en temps un numéro plus littéraire avec Claude Brémond, le message narratif, c'est le premier grand article sur Vladimir Prop et la morphologie du conte, Todorov, Barthes, cette rhétorique de l'image dont je viens précisément de parler avec l'analyse de la publicité, Christian Metz et les premiers rudiments de cette sémiologie du cinéma et ces éléments de sémiologie de Barthes qui sont ses deux premiers séminaires sur ce sujet. Et puis des autres numéros qui reviennent à la communication de masse, un numéro important sur la culture supérieure et la culture de masse autour du sociologue américain Paul Lazarsfeld, dans lequel l'article de Barthes conteste cette division de la culture supérieure et de la culture de masse en s'inspirant de Foucault et de la labilité du partage entre la raison et la folie, suivant son histoire de la folie. Et puis, les numéros de l'année qui nous concernent, ce sont des numéros sur chansons et disques, largement organisés par Edgar Morin, sur radio et télévision, Et ce sont des numéros qui restent très intéressants, où on voit notamment une intervention de Pierre Dumayet, qui l'interviewait tout à l'heure à la télévision. Et puis, ce numéro 8, important, dont j'aurai l'occasion de revenir, qui porte en 1966 sur l'analyse structurale du récit. Cette affaire Barthes-Picard éclate donc à la rentrée de 1965, et on peut dire qu'elle éclate un peu à contre-temps, puisque c'est 2 ans après la publication du livre que Barthes avait consacré à Racine, hein, c'est 2 bonnes années après, c'est un effet très retardé, et le livre sur Racine était un livre déjà ancien, puisqu'il réunissait des textes de 1958 à 1960. On est donc très loin de l'actualité et on a parfois dit que Picard, au nom de la Sorbonne, avait réagi lorsque Barthes avait parlé de Racine. Au fond, que tant qu'il parlait de Michelet ou de Robbe-Grillet, ça n'était pas grave, mais que dès lors qu'il touchait au cœur de la littérature française, une réaction était indispensable. Et pourtant, c'est probablement moins Racine que les essais critiques qu'a publié plus tard Barthes, qui provoquera cette réplique de Picard. Dans l'introduction sur Racine, c'était un autre moment, et Barthes voulait à ce moment-là faire une sorte d'anthropologie structurale et analytique, hein, considérant l'univers tragique de Racine comme un tout, et à travers l'anthropologie et la psychanalyse, il s'agissait de décrire ce monde, ce que Barthes appelait une sorte de homo racinianus. La réception du livre de Barthes à ce moment-là avait été plutôt bienveillante. Ceux qui se déchaîneront un peu plus tard, notamment dans Le Monde, comme Pierre-Henri Simon, qui sera l'un de ses adversaires dans ce rez-de-chaussée du Monde, parlait à ce moment-là de la virtuosité dialectique qui enchante et inquiète. Alors, évidemment, il y a de l'inquiétude à côté de l'enchantement, mais dans l'ensemble, l'accueil était favorable, mais il est clair que sur Racine était lu à travers les essais critiques publiés 1 an après et notamment à travers les articles qui choquaient dans les essais critiques qui étaient les derniers, les tout derniers, les plus récents, c'est-à-dire des articles intitulés « Les deux critiques » de 1963 et « Qu'est-ce que la critique ?» également de 1963, où Barthes s'opposait à la critique qu'il qualifiait d'universitaire. Autrement dit, sur Racine était lu à travers cette distinction nettement posée entre critique d'inspiration marxiste ou psychanalytique et critique universitaire. Si on prend par exemple un compte-rendu du livre de Barthes sur Racine dans la revue Critique en 1964, eh bien, il lit sur Racine à travers cette division qui est apparue après, et au fond, c'est à ce moment-là que l'offensive est venue, peut-être d'autant plus que ces 2 articles que j'évoquais, les 2 critiques et Qu'est-ce que la critique, avaient été publiés à l'étranger, aux États-Unis et en Grande-Bretagne dans le TLS, comme s'il y avait là un esprit de conquête qui s'éloignait du théâtre parisien. Et c'est à ce moment-là que Picard a réagi dans Le Monde, en mars 1964, donc aussitôt après la sortie des essais critiques, sous le titre « Monsieur Barthes et la critique universitaire ». C'était donc bien cela l'enjeu. Il répondait à l'essai « Les deux critiques » l'un des plus récents du recueil, qui était repris dans les essais critiques. Et le Monde disait, en tête de ce texte de Raymond Picard, « Le Monde publie aujourd'hui un bref mais véhément article où Raymond Picard répond à l'essai, les deux critiques parues dans le recueil Essais critiques, publiées cette année par Roland Barthes dans la collection telle quelle des éditions du Seuil. » Et Picard s'en prenait directement à cet article, écrivant « Attaquer l'université fait partie du conformisme d'avant-garde dont M. Barthes est l'une des figures marquantes. » Barthes réagit presque aussitôt dans un entretien qui est publié dans ce qui est encore France Observateur, et c'est déjà une réponse. Le chapeau de l'entretien place bien nettement l'enjeu de ce débat. On l'attend, ses ennemis l'attendent, ses ennemis aussi. Il exerce sa fascination sur les meilleurs des jeunes écrivains depuis plus de 10 ans. C'est insupportable, la revanche n'est pas loin. Barthes n'est plus le jeune auteur qu'il faut ménager pour ménager l'avenir, ni l'écrivain débutant que sa maladresse rend inoffensif, il est devenu l'homme à abattre. Et Barthes, lorsqu'il, dans cet entretien, répond aux attaques dont il est l'objet, écrit ceci. Il est impossible de parler de littérature sans se référer à une psychologie, à une sociologie, à une esthétique ou à une morale. La critique est forcément parasite d'une idéologie plus vaste. Je suis prêt à reconnaître toute critique qui déclare l'idéologie sur laquelle forcément elle se fonde, mais par là même, je me sens tenu de contester toute critique qui n'a pas cette franchise. Barthes réclame une critique qui affiche son idéologie, puisque toute critique est idéologique. Le pamphlet de Picard est publié à l'automne 1965, et il est publié, eh bien, je retrouve Jean-François Revel, il est publié dans la collection Liberté, dirigée par Jean-François Revel chez Pauvert. Et c'est un livre qu'il a commandé, Nouvelle critique ou Nouvelle imposture. Un mot de Picard, puisque là encore, ce débat, cette polémique, porte peut-être à faux. Picard est né en 1917, donc il a 2 ans de moins que Barthes. Il est l'auteur de La carrière de Jean Racine. C'est sa thèse. Cette thèse est publiée chez Gallimard, dans la Bibliothèque des idées, dont nous avons parlé il y a quelques séances lorsque Pierre Nora était là, puisque ce sont ses collections qu'il a reprises chez Gallimard en 1965. Picard est aussi l'éditeur de Racine dans la Pléiade et l'auteur d'une série de recueils de documents intitulés Corpus Racinianum, publiés au fur et à mesure des années, qui sont un monument d'érudition racinienne et une somme de documents. Alors, le conflit qui va traîner toute une année, est très souvent présenté comme un conflit de la Sorbonne et de la 6e section de l'École pratique des hautes études. Le conflit d'un mandarin et d'un non-normalien, non-agrégé, non-docteur, mais qui joue aussi de sa marginalité. En vérité, Raymond Picard n'est pas du tout un sorbonnard type, un brichot caricatural. D'abord, on peut souligner que sa thèse est publiée chez Gallimard, dans la Bibliothèque des idées, dans la collection de Sartre et de Merleau-Ponty, où on ne trouve pas tellement de thèses littéraires. On peut aussi dire qu'il est l'auteur d'un roman publié chez Gallimard en 1947, intitulé « Les Prestiges », roman que je n'ai pas lu, que j'aurais dû lire pour essayer de vous en dire un peu plus, et qu'il est un proche de Jean Paulhan. Là aussi, peut-être faudrait-il s'intéresser au rôle de Paulhan, qui avait déjà polémiqué contre Barthes dans le passé. et qu'il est un familier d'un certain nombre de romanciers contemporains comme Nathalie Sarraute et Claude Simon. Il est donc difficile de le présenter comme l'incarnation de la Sorbonne, et pourtant, dans son pamphlet, il réagit contre la nouvelle critique, jugée, dit-il, dangereuse, passée de l'imprudence à l'impudence en raison de son succès. Il explique qu'il n'avait pas réagi à l'édition de Racine, justement, en 1960, parce qu'il l'a considérée peu importante. « Je ne l'avais pas prise au sérieux, c'était un travail de librairie dont l'auteur se serait désennuyé en se jetant avec le talent qu'on lui connaît dans le hasardeux et le saugrenu. » Mais c'est seulement 2 ans plus tard qu'il comprend qu'il s'agit là d'une entreprise cohérente et que les essais critiques sont une sorte de machine de guerre contre la critique universitaire. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans les détails de cette polémique qui est assez largement connue et des arguments que donne Raymond Picard, mais il s'en prend à l'incohérence de la méthode, au caractère invérifiable des affirmations qu'il juge prophétiques, au caractère systématique de cette démarche, et bien entendu, tout cela est connu au jargon que Barthes utilise dans ses réductions à un certain nombre de formules. A a tout pouvoir sur B, par exemple, A aime B qui ne l'aime pas, ou à l'habitat unicoïde, à l'imagination descensionnelle, à la véritable apnée pour la souffrance de Néron, etc. Tout ce qui le conduit à qualifier d'escroquerie intellectuelle cette démarche. Cet ouvrage, dit-il, méconnaît les règles élémentaires de la pensée scientifique ou même simplement articulée, presque à chaque page, dans l'égarement d'une systématisation galopante. La partie est donnée pour le tout, le plusieurs pour l'universel, l'hypothétique pour le catégorique, et toute cette confusion est recouverte par une langue dont la précision ostentatoire est un mirage. Après cette descente en flamme, Picard réaffirme les principes de la critique. Et c'est un peu ce qui lui coûtera, puisque ce credo donnera des armes à ses adversaires contre le relativisme ou le subjectivisme de Barthes. Il affirme ainsi, il y a une vérité de Racine sur laquelle tout le monde peut arriver à se mettre d'accord, en s'appuyant en particulier sur les certitudes de la langue, sur les implications de la cohérence psychologique, sur les impératifs de la structure du genre. Le chercheur patient et modeste parvient à dégager des évidences qui déterminent en quelque sorte des zones d'objectivité. C'est la formule que reprendront par la suite tous ses adversaires. Mais selon Picard, dans cette lutte factice entre nouvelle critique et critique universitaire, l'université n'a pas attendu Barthes pour prendre ses distances avec la critique biographique, la critique des sources, et réaliser une partie du programme que Barthes appelle de ses voeux, notamment après Lucien Febvre, d'une critique des mentalités. Barthes, dit-il, ne connaît pas la critique universitaire lorsqu'il l'a réduit à un lansonisme appauvri, un fantôme qu'il a suscité pour le pourfendre. Évidemment, Picard revendique, lui, ce nouveau lansonisme, cette nouvelle histoire littéraire dans son livre sur Racine. C'est pourquoi le livre de Barthes est à ses yeux particulièrement dangereux, et son influence doit être combattue sur les jeunes. Dernier point de ce livre, ou plutôt avant-dernier, Picard revendique pour lui-même le retour au texte. Quand la nouvelle critique prétend retourner au texte, eh bien c'est un malentendu sur l'œuvre, puisqu'elle retourne à un sens qui lui est extérieur, à un sens qu'on trouve dans une structure marxiste, dans un inconscient psychanalytique ou dans un univers métaphysique. Donc celui qui retourne véritablement au texte, c'est lui. Et second malentendu, celui qui est véritablement structuraliste, c'est lui, puisqu'il s'intéresse aux structures littéraires et non pas à des structures qui seraient extérieures au texte. Enfin, et c'est ça le dernier point que je voudrais faire sur ce livre, il y a un critique qui est sauvé de tous ceux que Barthes associe, que Picard associe à Barthes, c'est Jean-Pierre Richard, qui est épinglé, mais excusé, l'auteur de Poésie et profondeur, de Littérature et sensation, de L'univers imaginaire de Mallarmé, etc. Je fais le plus grand cas des ouvrages de M. Richard, auxquels sa finesse et son goût littéraire ont permis le plus souvent d'éviter les dangers de la méthode qu'il emploie. Il est donc, et je crois que c'est assez remarquable, à l'intersection, il est celui qui est revendiqué des deux côtés par les deux bords, la critique universitaire et la nouvelle critique. Les deux camps sont-ils clairs à la suite de ce pamphlet ? Sont-ils tranchés ? D'un côté, la critique universitaire, de l'autre, la nouvelle critique, l'avant-garde intellectuelle. C'est en vérité beaucoup plus confus. Et dans l'ensemble, le pamphlet de Picard est plutôt bien accueilli à peu près partout au nom d'une défense du bon sens. Dans le monde, bien sûr, mais le monde avait suscité, pour commencer, cette attaque de Picard, où Jacqueline Piatier, à laquelle Roland Barthes en voudra toujours énormément, où Jacqueline Piatier écrit « La nouvelle critique est-elle une imposture ?» avant d'insister sur les surprenantes interprétations que Roland Barthes a données des tragédies de Racine. La première arme dont se sert Picard est le ridicule. Il fait rire en ayant tout simplement recours à la cohérence, à la logique de l'esprit. Mais les choses sont en vérité bien plus confuses dans d'autres publications, en particulier dans le Nouvel Observateur, où l'article qui accueille le livre de Picard est en fait tout à fait positif, et il faut sans doute se demander pourquoi. C'est un article du sociologue Jean Duvigneau, un ancien proche de Barthes dans le théâtre populaire dans les années 50. Jean Duvigneau est aussi le professeur de philosophie de Pérec, et il vient de louer Pérec, ou il louera les choses de Pérec quelques semaines plus tard dans la même publication. Donc, a priori, il est complice. Mais en même temps, il est l'auteur d'un livre qui est publié dans la Bibliothèque des idées chez Gallimard ce même automne de 1965, L'acteur, esquisse d'une sociologie du comédien. Et il écrit dans ce compte-rendu du livre de Picard « Le dernier débat de l'avant-garde ». Autrement dit, c'est un débat, à ses yeux, interne à l'avant-garde. Il ne reprend pas du tout à son compte l'opposition d'une critique d'avant-garde et d'une critique universitaire. Dans les milieux universitaires, on ne parle plus que du livre de Raymond Picard contre Roland Barthes. C'est très intéressant, puisqu'on voit que c'est un débat... Ils sont tous les deux universitaires, et le débat, c'est à l'avant-garde universitaire qu'il a lieu. Alors, bien sûr, on peut penser qu'il y a là un amour de la presse pour la polémique, mais Picard et Barthes sont d'emblée introduits comme, dans une pièce de Marivaux, deux personnages amoureux l'un de l'autre. Autrement dit, la situation est vue comme celle de la querelle de deux frères ennemis, envieux l'un de l'autre, Picard à la fougue d'un mousquetaire, et il accuse Barthes de deux erreurs, escamoter le sens réel de l'œuvre sous un sens imaginaire, prendre le système comme modèle d'explication. Et ce sont deux réserves que le critique reprend à son compte. Certes, quand on lit Raymond Picard, on a parfois l'impression de passer son baccalauréat. Mais il faut avouer que ces attaques, parfois, atteignent leur but. Et Duvigneau concède que sur Racine est séduisant. Et tous les commentateurs emploient au fond ce mot. Cela enchante, cela captive, cela séduit, mais, poursuit-il, nous laisse sur notre faim. Et pour essayer de défendre Barthes, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de dire que Barthes a écrit d'autres choses que sur Racine et de reprocher à Picard d'ignorer les autres travaux. Mais quand il évoque sur Racine, Dubignon écrit « Barthes ne pouvait faire un plus mauvais choix que celui de Racine ». Et la manière dont il aborde l'auteur de Phèdre mutile aussi bien le poète que le critique. Mais il y a des échecs aussi intéressants que des réussites. Autrement dit, il n'y a pas du tout d'engagement d'un côté. Et si on se demande pourquoi ce penchant pour Picard, eh bien, probablement parce que Raymond Picard, dans son livre sur Racine, La carrière de Racine, a fait une lecture sociologique de Racine. C'est une lecture qui interprète les efforts de Racine pour entrer dans le monde de la cour jusqu'au silence, une fois qu'il sera récompensé et qu'il y sera entré. Et assez clairement, c'est une lecture qui convainc davantage le sociologue Anduvigno que la lecture proposée anthropologique et psychanalytique de Barthes. Mais il est assez clair que Picard est un des leurs et non un ennemi. Et pour Duvigneau, tous les deux sont dans la lignée, dit-il, de Sartre, Goldman, Starobinsky, Richard. Autrement dit, pas d'opposition. La seule différence, c'est que chacun utilise une seule grille, celle de la sociologie historique chez Picard, celle de la psychanalyse et de l'anthropologie chez Barthes. Barthes répond dans une lettre que publie le Nouvel Observateur la semaine suivante, ce qui montre qu'il n'est absolument pas défendu, qu'il n'a pas été défendu, et le chapeau de cette lettre, j'ai oublié de vous montrer quelques images, voilà l'article de Duvigneau avec les deux adversaires dans ses photographies d'identité, et la réponse de Barthes qui... sous un chapeau qui persiste à les présenter comme deux universitaires, la question, la querelle portant sur l'enseignement de la littérature et l'influence de la critique sur la jeunesse intellectuelle. Le soutien a donc été des plus tièdes et Barthes parle de chasse gardée, de censure, d'amalgame. Il recommande enfin à la nouvelle critique de s'intéresser un jour à cette figure du pion qu'elle trouve sur son propre chemin. On trouve à ce moment-là des lettres un peu partout qui sont publiées et en vérité, au fond, on ne prend pas parti, ni la presse, ni les pairs ne soutiennent l'un ou l'autre, à quelques exceptions près, comme Solers dans Tel quel, qui dit du livre de Picard, ce serait peu de dire que ce discours qu'il est réactionnaire. Il semble incarner l'ordre moral lui-même. C'est ce qu'il écrit dans Tel quel, mais il est l'éditeur de Barthes désormais. Ou Michel Cournot qui écrit dans le Nouvel Observateur, dans un article qui n'est pas sur la polémique, Picard est la marquise gâteuse qui ne connaît rien de Racine et qui bavarde au hasard dans un salon de thé. Ce qui évoque probablement la marquise de Villeparisis, prototype de Sainte-Beuve. Jeannette nous rappelait la semaine passée que Barthes avait été très affecté par cette polémique et qu'il lui avait demandé une esquisse de réplique que Barthes avait laissée de côté. Et dans plusieurs entretiens qui sont contemporains, exposés dès le moment de la publication du livre de Picard, Barthes dénonce le caractère excessif de ce livre, se pose comme la victime, comme offensé, dans le cadre de ce qui pourrait être un duel, et il traite la critique de Picard de terroriste lorsqu'il s'agit de défendre sa propriété, sa chasse gardée, et il revendique la jeunesse renvoyant son adversaire au passé. Moi, c'est dans le Figaro, moi, je parle de Racine selon le langage de notre époque. C'est moi, en fait, qui crois qu'on peut encore lire Racine aujourd'hui. C'est moi, le vrai gardien des valeurs nationales. Défense assez intéressante, puisqu'elle fait appel à la défense du patrimoine et à la mise à valeur de ce patrimoine. En les faisant vivre, en les rajeunissant, je défends la littérature. Il est donc délirant de prétendre que la nouvelle critique n'aime pas la littérature. Au contraire, c'est l'ancienne qui ne l'aime pas. Et lorsqu'on lui demande « Vous jugez donc que votre influence sur les étudiants n'a rien de dangereux ?» le grief de Picard, Barthes dit qu'il est du côté des jeunes, du côté des étudiants, contre Picard, qui part en guerre contre les étudiants. Quelques mots de « Critique et vérité », qui est donc publié en février 1966, avec un bandeau « Faut-il brûler Roland Barthes ?» qui évoque le titre du livre notamment de Simone de Beauvoir sur Sade, un peu plus ancien. J'irai aussi rapidement pour rappeler ce qu'il y a dans ce livre, qui est bien connu, deux parties, une réfutation de Picard et un programme. Et la réfutation est violente, au moins aussi violente que le texte de Picard, et elle est très politique. Barthes revendique en effet l'héritage de la libération, donc fait référence à la libération. Il se réclame de toute la tradition depuis le XIXe siècle de l'avant-garde persécutée. Il dénonce le retour offensif d'un certain obscurantisme et des rites d'exclusion qui ont quelque chose d'indéfectiblement politique. Il s'agit donc de pousser l'adversaire vers la droite et je dirais vers l'extrême droite, puisque Barthes écrit « La régression se fait aujourd'hui honteuse, tout comme le capitalisme, avec une référence à Tixier-Vignancourt, qui vient d'être le candidat de l'extrême droite à l'élection présidentielle de décembre 1965. » C'était Barthes qui parlait d'amalgame qu'on avait exercé contre lui, mais l'adversaire est repoussé vers cette extrême droite dans un ton assez grandiose. « Ce qui n'est pas toléré, c'est que le langage puisse parler du langage. » Cette ancienne critique est donc assimilée à une critique endoxale, à une critique de masse, dit-il, qui relève de la consommation à l'échelle de la communauté culturelle. On connaît les griefs que Barthes formule à l'égard de cette critique, c'est l'objectivité, le goût, la clarté. Mais je voudrais surtout insister sur les listes, parce que Barthes dresse des listes d'ennemis et d'amis qui sont citées dans de longues notes. Et dans les ennemis, dans les premières pages, où il rappelle tous ceux qui ont écrit contre lui, eh bien on trouve presque toute la presse française, Le Monde, Le Figaro, La Nation française. On trouve bien entendu Pierre-Henri Simon, le critique qui a le rez-de-chaussée du Monde, Jacqueline Piatier, Jean Caux, mais aussi Mauriac ou Édouard Guiton, tous sont qualifiés de nouveaux Benda. Benda, c'est le modèle du critique réactionnaire, l'auteur de Belphégor, de la France byzantine, mais ils sont aussi assimilés à Brunetière, autre tenant de l'académisme ou de l'ordre moral, à toute la police des lettres du XIXe siècle, ou encore à Norpois. Norpois, qui est la figure éponyme de l'ancienne critique dans les jugements qu'il porte sur Bergotte. Et en face, Barthes donne une liste des précurseurs et des alliés, ce qui est un geste assez courant de la polémique, mais il est intéressant de voir que le premier des précurseurs qui est cité, c'est Proust. Et Proust revient beaucoup dans ce texte, ce qui nous signale probablement que Barthes est en train de le lire à ce moment-là. Et après Proust, Freud, Lacan, Queneau, dont on vient de publier en collection de poche Bâtons, chiffres et lettres, Chomsky, Mallarmé, Jacobson, Blanchot. La critique universitaire, nouvelle référence à Proust, est comparée à la dissertation de Gisèle dans « À l'ombre des jeunes filles en pleurs » avec ce commentaire « Depuis, cependant, il y a eu Marx, Freud, Nietzsche, ailleurs, Lucien Febvre, Merleau-Ponty. » Tous ceux-là sont donc appelés à la rescousse dans la partie négative critiquant la critique universitaire. Et dans la seconde partie programmatique, eh bien Barthes cite encore plus de noms, de précurseurs et d'amis. Par exemple, pour poser les principes de sa nouvelle critique, il commence par une généalogie qui convoque Mallarmé, Proust et Blanchot. Autrement dit, ce sont ses parents et ses grands-parents. Depuis près de 100 ans, depuis Mallarmé sans doute, non seulement les écrivains font eux-mêmes de la critique, mais leur œuvre, souvent, énonce les conditions de sa naissance, Proust, ou même de son absence, Blanchot. Et Barthes saute aussitôt à Leclésio, donc de Mallarmé à Leclésio, voilà la filiation, Leclésio qui vient d'écrire « Il n'y a ni poète ni romancier, il n'y a plus qu'une écriture ». Ce qui fait que le critique devient à son tour écrivain. Mais je vous donne rapidement la liste de tous les noms qu'il convoque. Sade et Nietzsche, Bataille pour l'expérience intérieure, Lacan pour l'expansion totale de l'image dans le champ de la parole, Lévi-Strauss pour la rhétorique nouvelle de la variation, Umberto Eco, Nicolas Ruvet, Paul Ricoeur, Jean-Pierre Richard, Jacobson, Grémas, Kafka et Marthe Robert, Lucien Sebag, Todorov, Prop, Lévi-Strauss, Jacobson, Ruvet, Jean Cohen, Lautréamont, Foucault, Georges Blin, Benveniste, et encore Lukács, Goldman, René Girard, tout cela en quelques pages. Dans un des autres entretiens contemporains, Barthes se référait aussi à Boulez, dont les relevés d'apprentis sont publiés exactement en même temps, également dans la collection telle qu'elle. Et ça me fait penser à un autre combat que, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'évoquer, celui-là, c'est celui qui met aux prises dans ce printemps de 1966 Boulez et Landowski, au moment où celui-ci est nommé directeur de la musique. Je n'ai pas encore eu le temps de faire un cours sur Malraux, il faudra bien en faire un, parce que le pauvre Malraux, dans cette saison, est pris dans de multiples combats, j'en ai déjà évoqué quelques-uns, la censure de La Religieuse et les injures de Godard, la polémique sur les paravents de Genet, et puis ces disputes qu'il a avec Boulez. En tout cas, cette critique universitaire, c'est celle qui, pour Barthes, continue de se faire comme si Marx, Freud, Nietzsche, Mallarmé, Proust, Blanchot, Bataille, Saussure, Jacobson, Lévi-Strauss, Lacan, etc., n'avaient pas existé. Et vous pouvez noter l'importance de Proust, qui en effet apparaît beaucoup. Entouré de ces figures tutélaires, de précurseurs, de pères et de disciples, Barthes peut développer ses thèses, et je dirais que ces thèses, il y en a deux sur lesquelles je dirais vite quelques mots. Eh bien, d'une part, il faut développer ce qu'il appelle une science de la littérature, et d'autre part, une critique. Cette science, c'est un discours général sur la pluralité des sens, c'est la science des conditions du contenu, et le modèle, c'est la grammaire générative, la grammaire transformationnelle de Chomsky. Et la critique, en revanche, c'est un discours qui assume ouvertement à ses risques le sens. Il s'agit, dit Barthes, en somme d'une anamorphose. Je crois qu'on pourrait aussi s'intéresser à cette image de l'anamorphose, de la déformation optique intentionnelle. La critique est une anamorphose. Peut-être que l'année 1965-1966, c'est aussi une époque de l'anamorphose, figure qu'avait mis à la mode le livre de Baltrusaitis, publié un peu plus tôt, et figure qui avait été reprise par Lacan dans son séminaire de l'année précédente. Et c'est une figure, si je pense à associer tout cela, c'est parce que c'est une figure que j'ai retrouvée aussi dans Blanche ou l'oubli d'Aragon, ce livre somme de l'année. Il faudrait donc parler de l'anamorphose, si on en avait le temps. Barthes insiste peu sur l'anamorphose comme trompe-l'œil, mais il insiste sur l'anamorphose comme transformation réglée du texte. On peut se demander s'il a véritablement riposté ou répondu. D'une part, il est déjà ailleurs, il fonde une science du texte et il libère la critique, ce qui fait que sa défense est assez flottante entre la science et la littérature. Mais c'est une attitude qu'il pourra revendiquer, notamment quand il se réclamera de la chauve-souris qui dit « Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats ». Il y a donc la revendication d'une double légitimité du savant et de l'écrivain, à moins que ses adversaires lui fassent valoir que ces deux légitimités s'annulent. En tout cas, la presse s'enflamme à nouveau, mais je dirais que de nouveau, elle tente à les renvoyer dos à dos, y compris dans le Nouvel Observateur, où on demande lequel des deux est le plus universitaire, le plus académique est sans aucun doute Barthes. Il n'élève pas la voix, il ne se veut pas polémiste. Et on poursuit en disant son œuvre, son sur Racine est une œuvre à bien des égards contestable, qui n'est pas la mieux venue de l'auteur du degré zéro de l'écriture. Donc personne n'ira jusqu'à le défendre. Et comme il l'avait fait à l'automne, le Nouvel Observateur donne encore la parole à Picard pour une riposte. Et c'est finalement lui qui a le dernier mot, qui anéantit critique et vérité en montrant que Barthes se renie lui-même et n'est plus fidèle à ses propres positions. Comment conclure ? Eh bien, j'aurais encore beaucoup de choses à dire que je n'ai pas eu le temps de dire, et notamment j'aurais voulu parler de la réaction de Bourdieu, parce qu'il y a un texte de Bourdieu sur cette polémique qui est très intéressant, qui se trouve dans le numéro des temps modernes dont nous avons déjà parlé, le numéro des temps modernes sur les problèmes du structuralisme, qui sera publié en novembre 1966. Et pour Bourdieu, cette polémique est au cœur de la définition de ces concepts les plus importants de l'époque, ceux de champ culturel et de projet créateur. Ils sont définis à partir de cet exemple. Dans cet article, Bourdieu montre que les contenus de cette polémique n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est les positions. Ce sont les positions de l'un et de l'autre dans le champ intellectuel. Ils sont au fond solidaires, complices. Le modèle de cette théorie sociologique du champ intellectuel, c'est le conflit de Barthes et de Picard, vu comme une lutte pour le pouvoir entre anciens et nouveaux. C'est le débat, dit-il, qui a opposé un des détenteurs du monopole du commentaire légitime des textes littéraires, Raymond Picard, au porte-parole des exégètes modernistes, Roland Barthes. Le principe du débat n'est donc pas dans le contenu des prises de position, mais dans les positions des protagonistes. Et vous voyez que Bourdieu, lui aussi, renvoie les deux adversaires dos à dos, car leur querelle à ses yeux montre la complicité structurale entre les différents pouvoirs. Picard reprochait à Barthes sa méthode, et au fond, ce grief est repris par Bourdieu, qui souligne que tous les deux sont d'accord sur l'essentiel. Au fond, pour Bourdieu, il n'y a pas de différence essentielle entre Barthes et Picard. Tous les deux sont d'accord sur le fait que la critique c'est de l'interprétation, même si leurs modèles sont différents, et ils sont tous les deux d'accord sur la défense du canon littéraire. Ils parlent de Racine, non de la culture de masse, en l'occurrence. Et Barthes n'écrivait-il pas « Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un pays reprenne ainsi périodiquement les objets de son passé ». Leur dispute souligne donc la concurrence entre deux légitimations, mais dans la complicité et nullement dans la véritable concurrence. L'un et l'autre se consolide ainsi. Chacun des deux camps trouve la meilleure justification de ses limites dans les limites de l'adversaire. Pour Bourdieu, l'intégrisme, position de Picard, est justifié dans sa soumission à la routine par les audaces et les délires du modernisme, tandis qu'en face, le modernisme, Barthes, puise dans l'archaïsme trop évident de l'intégrisme les justifications d'une novation à demi qui, en cumulant les libertés et les facilités, se voue à servir de base à une nouvelle routine académique. Vous voyez que l'un et l'autre, aucun n'est sauvé, puisqu'aux yeux de Bourdieu, tout ce que fait Barthes, c'est faire passer des produits de culture moyenne pour d'authentiques conquêtes de l'avant-garde. L'analyse, je ne sais pas si elle est acceptable, mais en tout cas, elle réduit totalement la querelle à une lutte pour le pouvoir dans l'indifférence au contenu, avec pour enjeu les jeunes, les étudiants. Gérard Genette nous rappelait la semaine passée que, à cette date, comme il disait, la critique littéraire se vendait comme des petits pains. C'était sa phrase. Eh bien, le livre de Picard s'est vendu à 50 000 exemplaires en 1975-1966, et c'est en effet la meilleure vente de cette collection de Jean-François Revel. J'arrêterai là pour aujourd'hui, mais il y aurait évidemment encore beaucoup à dire sur cette polémique, et notamment sur l'interprétation de Bourdieu.